matin, Pierre de Villeneuve.
Avec Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou à l'Assemblée. Même topo, budget, assurance chômage, retraite, pas un texte ne suscite le consensus des députés. Au contraire, on s'écharpe et pire, on assiste à des alliances inédites. NUPES plus LR plus MoDem, ça c'est la glace à trois boules. Ou NUPES plus LR avec abstention d'Horizon, ça c'est la glace deux boules avec Chantilly. Bref, à la buvette de l'Assemblée, ça fait causer. Mais en attendant, la majorité en prend un coup, Gérard Carrérou.
Oui, six mois après les élections législatives, où on a vu l'arrivée quand même en force du Front National, du Rassemblement National d'une part et de la NUPES de l'autre, on s'aperçoit que effectivement, c'était pas vraiment encore aperçu qu'il n'y avait pas de majorité. Mais là, on s'en aperçoit d'autant plus que... cette majorité qui n'en est plus
majorité
une,
absolue.
Dans cette majorité relative qui est celle du président de la République, on s'aperçoit qu'il y a déjà des frondeurs. Pour Hollande, je me souviens qu'il avait fallu attendre quand même... Michel, tu te souviens?
Ils étaient nommés par Martine Aubry.
En tout cas, vient très vite. On a déjà eu 19 frondeurs, ce qui est quand même pas mal. Et on a surtout un phénomène qu'on va sentir maintenant tous les jours, pendant les 4 ans qui viennent, c'est que la campagne présidentielle pour la prochaine élection présidentielle a commencé. Nous avons déjà les candidats qui ont une politique, non pas d'hommes politiques ou d'hommes d'État, mais de candidats. Et on peut mettre dans ce registre-là le maire du Havre, Édouard Philippe. On peut mettre dans ce registre-là Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Le ministre de Bercy, c'est-à-dire le maire. Et on peut rajouter maintenant Bayrou, qui a été 3 fois candidat à la présidentielle et qui a déjà laissé pointer le bout de l'oreille.
On ne compte pas.
Donc on est déjà dans une campagne pré-présidentielle à plus de 4 ans.
C'est quasiment un système américain.
C'est encore pire presque qu'un système américain. Les mid-terms, c'est à la moitié. Là, on n'est pas à la moitié, on n'est même pas au quart.
En fait, il me semble que beaucoup de choses tournent autour de la taxation des super-profits, de la taxation des super-dividendes. Et là, on voit bien que les gens sont divisés à l'intérieur du gouvernement. Encore une fois, c'est pas un hasard. C'est quelqu'un de très proche d'Elisabeth Borne. Elle propose la flat tax, que la flat tax soit enlevée pour les super profits. C'est pas un hasard. Donc il y a vraiment en Europe, après tout, on taxe les super profits. Nous sommes par rapport à ça.
Vous voulez dire que si ça avait été un autre texte, il y aurait peut-être pas eu cette fronde là.
Oui, je pense que si ça avait été si on avait davantage collé à l'Europe, je pense que si on avait davantage collé à l'Europe sur la rémunération des grands groupes et surtout des super profits qui ont quand même été formidables. Alors, il faut dire que les entreprises disent, mais nous, on a fait des restrictions à la pompe, on a enlevé 30 centimes à la pompe,
c'est un cadeau pour tout le monde,
qui profite à tout le monde. Mais malgré ça, ça n'a pas été assez convaincant. En tout cas, pour résoudre le problème à l'intérieur du gouvernement.
Catherine. Charles.
Non, il y a deux choses dans cette affaire. Il y a d'abord le monde à l'envers, parce que toute l'Europe, même libérale, vote les super-taxes sur les super-profits, ou les taxes sur les super-profits. Toute l'Europe, et notamment, ce qui est très étonnant dans cette affaire, c'est que les Républicains, qui sont les héritiers aussi du RPR, c'est-à-dire des gaullistes, ont toujours taxé les gros. Toujours. Il y a une continuité là-dessus. Et de la même manière, mais en même temps, il faut distinguer le rôle des Républicains dans cette affaire. Parce que les Républicains, normalement, enfin, d'après toutes les analyses, rappelons-nous, Gérard, Catherine, Michel, qu'avant même l'élection présidentielle, on se disait que, surtout, après les législatives, on se disait qu'ils seront obligés de faire l'appoint avec la majorité relative.
Ça, c'était le calcul de Macron.
Oui, mais en réalité, les Républicains ont deux éléments forts de ce qu'il leur reste de leur identité, c'est-à-dire la maîtrise des dépenses publiques et le régalien, la sécurité et l'immigration. Ils ne vont pas donner quitus au gouvernement de sa gestion budgétaire et de ses finances publiques, sinon il risque la disparition complète. Il risque de couler. Et c'est la raison pour laquelle, sauf sur la réforme des retraites, qu'ils vont voter, à mon avis, parce qu'ils ont toujours dit qu'ils étaient pour un âge de la retraite.
Mais c'est dans leur ADN,
62 ans. Et donc ils ne pourront pas faire autrement. Mais en dehors de ça, ils jouent leur existence dans cette affaire.
Mais est-ce que la réforme des retraites, là on n'en a pas parlé, mais est-ce qu'elle peut être votée dans un contexte, on ne sait pas ce qui va être le contexte dans 15 jours, mais on peut imaginer, il y a quand même une possibilité qu'il y ait un contexte explosif d'un pays avec une crise sociale qui continue, qui perdure et éventuellement qui se développe ici et là. Donc est-ce qu'on peut, dans ce contexte-là, prendre le risque de voter au 49-3, c'est-à-dire au forceps, de voter la réforme des retraites, qui provoque en elle-même déjà des oppositions.
Mais de toute façon, tu dirais que c'est le premier à reculer.
La réforme des retraites ne sera pas votée ce dernier trimestre. Ça a été annoncé au dîner.
Au début de l'année prochaine.
Non, ça sera avant la fin de l'hiver. Voilà. Et comment, quel est le truc? On ne l'a pas encore dit.
C'est-à-dire ressortir des fêtes.
Ressortir des fêtes. Puisque vous mettez sur la place le rôle des Républicains, je trouve quand même qu'on peut, on voit bien qu'il y a une polémique à l'intérieur des Républicains et que d'une certaine façon incarne un peu Sarkozy, même s'il était éloigné. C'est est-ce que ça n'est pas le bon moment pour les Républicains de faire ce qu'ils veulent? Et d'ailleurs, regardez, dans plein d'amendements. Par exemple, de taxer la part fiscale pour l'ensemble des veuves d'anciens combattants. Il y a plein de les tickets restaurants qui ont été augmentés. C'est-à-dire que le gouvernement laisse tomber parce qu'il a besoin de sa majorité. Donc, est-ce que ce n'est pas le moment pour les Républicains de faire monter les enchères en se disant ils sont bien obligés de nous suivre? Alors, c'est pas un pacte qui dit son nom, évidemment, c'est une façon d'exister, tandis que je pense que si les Républicains continuent par moment à voter avec la NUPES et le Front National, moi je crois que c'est là où ils disparaissent.
Mais moi je crois
ils pourraient faire entendre leur voix clairement.
Moi je crois aussi qu'il faut attendre, parce que là aussi ils ont leur élection, on va savoir quel sera le nouveau patron du parti. Une fois qu'il y aura un nouveau patron du parti, peut-être qu'il y aura une nouvelle ligne, je ne sais pas. Est-ce que la ligne, si c'était...
Ciotti, ce n'est pas la même ligne, qui ne serait pas tout à fait la même que Retailleau.
Donc, je veux dire, il y a ça aussi qui joue pour l'instant. Pour l'instant, c'est un peu un canard sans tête, parce qu'il n'y a pas de ligne. Voilà.
Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie de François Bayrou qui dit un 49-3 précédé d'un travail de fond et de bonne foi, ce n'est pas pareil qu'un 49-3 brutal?
C'est vrai.
Oui.
Il a raison. Oui. D'ailleurs, c'est ce que dit Bruno Le Maire. C'est ce que dit Bruno Le Maire lorsqu'il a dit on n'aura pas de 49-3 dès cette semaine, on l'aura la semaine prochaine éventuellement.